Vous vous souvenez ? Mais oui, les crimes d'El Goléa. Très bon souvenir. En quelques mots de réplique, le ton est donné, un rien de cynisme, une pointe d'humour, une passion pour l'enquête. Quelques mots dans un roman qu'il faudra bien nommer.
Pascal Paradou.
Le paysage était noir de pluie, de défaites, de corps entassés, vivants ou morts, et de chevaux devenus fous. Voici la première phrase des Enfants perdus, le nouveau roman de François Sureau, une phrase de désolation dans un roman où la mort collective côtoie le crime individuel. Bonjour François Sureau.
Bonjour.
Quelle attention portez-vous à la première phrase ?
D'abord, j'ai cette première phrase, en fait, est une... On peut se demander pourquoi on écrit des romans. Je vais prendre le truc par le bout.
Ah oui, vous prenez grand angle.
Je prends grand angle.
Moi, je prends la première phrase. Voilà. Vous, pourquoi
c'est
vous
pareil.
Écrivez.
C'est parce que la première phrase est très révélatrice des raisons pour lesquelles on écrit. Et en fait, au départ de ce roman, qui se passe en 1870, à la fin de la guerre franco-prussienne, il y a une expérience que j'ai faite et qui est au fond l'expérience de la guerre en Yougoslavie, où j'étais frappé à l'époque quand j'y étais. Par le caractère à la fois aléatoire et obligatoire des drames de la guerre, par quelque chose à quoi on ne peut pas échapper, qui vous baigne entièrement de toutes parts, mais à l'intérieur duquel, ce théâtre, à l'intérieur duquel, les petits drames individuels n'ont pas disparu. Et c'est la raison de cette première phrase où, finalement, je décris un paysage de défaite et de désastre. Mais ce paysage de défaite et de désastre laisse subsister à l'intérieur de lui des drames individuels qui vont être le sujet de l'enquête.
Donc ça veut dire que la guerre n'efface pas le crime individuel, même si la guerre est un crime à plusieurs milliers de morts.
C'est-à-dire que ce sont des crimes de nature différente. C'est-à-dire, au fond, vous avez... vous vous souvenez de ce très très joli film de Ridley Scott qui s'appelait Dueliste, qui avait été fait d'après la nouvelle Le Dernier Duel de Conrad. Et un mot, il décrit les règles du duel. C'est deux officiers qui se battent en duel sous l'Empire. Et l'un des participants à la conversation dit « Mais de toute façon, messieurs, je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous battre si l'État est en guerre parce que le duel des nations a une absolue priorité sur le duel individuel. » C'est exactement la même chose. Au fond, vous avez... J'hésite à parler de crime parce que la guerre n'est pas un crime au sens propre du terme. C'est-à-dire que dans la guerre, la mort n'est pas le but de l'exercice. Dans la guerre, le but de l'exercice est la victoire. Le désir de la victoire peut se traduire par des morts de soldats, et également par des morts civiles, et au besoin par des crimes de guerre et par des choses particulièrement horribles. Mais la mort elle-même, le crime, n'est pas le but de l'activité du soldat, par exemple. En revanche, elle est le but de l'activité du criminel. Ce qu'il y a de fascinant, et ce que j'ai essayé de décrire, c'est un univers dans lequel, dans une atmosphère générale de... entre guillemets, meurtre étatique, même s'il ne s'agit pas d'un crime, il y a des choses un peu annexes qui se passent, qui sont des meurtres semi-étatiques involontaires, et puis il subsiste là où, au fond, le mal est le plus précis, le plus intentionnel, il subsiste le crime individuel, celui qu'on commet pour un motif particulier qui n'a rien à voir avec l'histoire.
Donc dans votre roman Les Enfants perdus, on est en 1870, dans l'Est de la France de Napoléon III qui se bat contre la Prusse, c'est Sedan, ça va être la perte et la fin de l'Empire d'une certaine façon et la perte de la France, la perte de la bataille. C'est une boucherie. Est-ce que pour vous c'est un roman historique ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, au fond, j'aurais pu le mettre, si je puis dire, à plusieurs périodes de l'histoire différentes. Alors pourquoi cette période-là ? Eh bien, c'est à raison de la captivité. C'est-à-dire, ce qui me paraissait intéressant, c'est que mon héros, là, le commissaire impérial Thomas More, il a été mobilisé comme officier et il est prisonnier des Prussiens et des Bavarois vainqueurs dans une petite presqu'île près de Sedan qui s'appelle la presqu'île d'Ige. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'au fond, le roi de Prusse, qui craint un scandale à raison d'un crime commis dans son entourage, va aller chercher ce bonhomme qui fait partie de la nation vaincue, mais qu'on décrit comme un des meilleurs esprits criminels de son temps, pour lui rendre service. Donc avec cette idée qu'il y a quelque chose, au fond, qui dépasse l'affrontement des nations. Donc ce que je voulais, c'était ça, c'est-à-dire un univers clos, un univers fermé, à l'intérieur de laquelle un ennemi allait chercher un autre ennemi, si je puis dire, pour l'aider.
Donc si ce n'est pas un roman historique, c'est un roman policier ? C'est un polar ?
Alors, c'est compliqué. C'est un genre de polar, si je puis dire. Pour moi, il y a quand même, au fond, il y a différentes catégories de polars, naturellement, mais je pense qu'au moins, il y a deux catégories assez différentes de lecteurs de romans policiers. Il y a ceux qui, au fond, veulent avoir affaire à un crime ou à plusieurs crimes, et puis aux indices, à la lecture des indices, et qui essayent, comme s'ils étaient une sorte de juge d'instruction, qui essayent de trouver le coupable avant le détective. Je connais plein de gens qui sont fabriqués comme ça, qui sont très très contents.
Oui, chercher les indices.
Oui, et qui sont très contents quand ils arrivent avant Hercule Poirot, enfin si je puis dire, à dire c'est machin qui a tué, c'est le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, etc. Et puis il y a une autre catégorie de lecteurs qui sont plus attachés à la personnalité du héros, à suivre un détective qu'il puisse aimer, parce qu'au fond, le détective est aussi quelqu'un qui met d'aplomb ce qui n'est pas d'aplomb, qui révèle ce qui est caché, qui empêche qu'un innocent soit reconnu pour un coupable. Le détective est quelqu'un qui met de l'ordre dans un univers qui est le nôtre, l'univers quotidien, dans lequel on ne sait pas vraiment ce qui se passe et dans lequel il n'y a pas d'ordre. Moi, j'aime suivre ces gens-là. Alors, au fond, sous ce rapport, des héros comme Arsène Lupin, on ne va pas dire que les livres de Maurice Leblanc sont des polars, mais Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Miss Marple, ou même le comte de Monte Cristo, au fond, présentent cette même fonction consistant à nous rendre le monde habitable en déchiffrant les mystères. C'est ce type de roman-là que j'ai essayé d'écrire.
Et ce personnage t'appelle Thomas More ? Vous concernant dans Les Enfants perdus. Quel drôle de nom. More, ça s'écrit M-O-R-E.
Voilà.
Mais on pourrait l'entendre More.
Oui, ça c'est une chose classique. C'est comme ça que... Je me souviens, je crois que c'est Nordon qui disait ça quand il analysait les œuvres de Sherlock Holmes. Vous savez que l'adversaire de Sherlock Holmes s'appelle Moriarty, le génie du mal. Et en fait, je crois que c'est Nordon qui avait expliqué que Moriarty était tout très très proche de Mortuary, c'est-à-dire la morgue. Bon. Ou bien de double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Poe. En fait, j'ai pris ce nom-là en référence à un auteur que j'ai beaucoup aimé et qui n'a rien à voir avec les intrigues policières, qui est Thomas More, l'humaniste anglais qui a été exécuté par Henri VIII.
Au XVIe siècle.
Au XVIe siècle. Oui, alors pourquoi cet humaniste ? D'abord, j'aime bien l'Angleterre, bon, c'est un de mes vices. Et puis, pourquoi cet humaniste anglais ? Eh bien, parce que l'essentiel du message de More, c'est qu'au fond... More ne voulait pas que le roi puisse être en même temps le chef de l'Église d'Angleterre. C'est pas qu'il s'opposait au remariage du roi, il n'avait pas grand-chose à faire. Mais il voulait pas que quelqu'un puisse être à la fois un chef spirituel et un chef politique. Je trouve personnellement qu'il avait tout à fait raison, et que More, pour cette raison, est le premier des grands écrivains antitotalitaires. Le XXe siècle est plein de chefs politiques qui se sont pris de Mao à Staline en passant par Hitler, et même parfois des chefs d'État démocratiques, qui se sont pris également pour des chefs spirituels, qui ont voulu couvrir la totalité du spectre de l'existence humaine. Et à ça, More était absolument réticent. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai donné ce nom aussi, parce que mon détective, au fond, ne prétend pas usurper la place de Dieu ou la place de guide spirituel. Il éprouve à l'égard des institutions étatiques une certaine méfiance. Et ce qu'il cherche, c'est surtout à faire advenir la vérité plutôt qu'à faire condamner des coupables. Vous observerez que dans le roman policier, c'est quelque chose d'assez fréquent. Dans Maigret, par exemple, Maigret n'aime pas les juges, n'aime pas d'ailleurs davantage les avocats, il n'aime pas les procureurs, il déteste le juge Comelio. Dans Agatha Christie, comme dans Sherlock Holmes, les détectives officiels sont à peu près tous des imbéciles. Et évidemment, le clou est atteint par Arsène Lupin, qui présente cette caractéristique dans 813 d'être à la fois le premier criminel de son temps, mais en même temps le chef de la sûreté. Vous voyez, la méfiance à l'égard des institutions est quelque chose qui est assez central dans la figure du détective du roman policier classique. Et ça correspond assez bien à la réticence de More à l'égard de l'invasion par les institutions étatiques.
Des aventures de Thomas More, votre personnage, François Sureau, un nouvel enquêteur dans le monde de la littérature. La suite dans quelques minutes, après avoir découvert le nouveau titre de Karen Anne, Paris Amour, en attente d'un nouvel album prévu à la rentrée de septembre.
qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque. Y en a qui se cassent, y en a qui raquent. Y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu très jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet. Des heures entières laissées pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir un moment su. J'ai vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim. Y en a qui se mangent, qui se doutent de rien. Ceux qui te plaisent, qui parlent sans feinte. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet.
Kerenan sur RFI pour une déclaration d'amour à Paris et François Sureau pour une autre déclaration d'amour à la littérature. Mais est-ce que c'est de l'amour que l'on ressent pour la littérature quand on est écrivain, sachant que vous avez eu plusieurs vies, François Sureau? On rappelle que vous avez été haut fonctionnaire, que vous avez travaillé pour de grandes entreprises, que vous avez été donc avocat, écrivain évidemment, élu à l'Académie française, mais que vous êtes aussi officier de réserve avec le grade de colonel, mon colonel. Et vous avez travaillé pour l'état-major des armées. Donc la littérature dans tout ça.
C'est l'inverse, c'est-à-dire que tout ce que vous avez décrit était en fait des passe-temps. D'abord, n'ayant pas eu la chance d'avoir, comme disait mon père, la fortune que je mérite, il a bien fallu travailler pour vivre. Et en tout cas, il y a une chose que je ne voulais pas faire, c'est travailler dans le domaine de la littérature, parce que je craignais que ça ne m'amène à essayer de produire trop, vendre des livres, enfin vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai fait des tas de métiers. Alors certains vous collent à la peau, par exemple, je vais vers mes 70 ans, on explique que j'ai été haut fonctionnaire, je l'ai été en tout et pour tout 4 ans. Mais ce machin est comme une étiquette assez, assez étonnante, faire comme dans une France mandarinale, vous savez, où en fait on note ça et où c'est une espèce de tampon, dont je ne sais pas s'il n'est pas tout à fait un tampon d'infamie.
Mais j'ai l'impression que votre curriculum vitae, comme on dit, vous permet d'aller dans tous les champs de la fiction, justement, non, puisque vous avez fait
la vérité,
tous ces métiers-là.
La vérité, c'est que j'ai jamais excellé dans aucun de ces métiers, dans ceux que vous avez cités.
Ça, vous êtes modeste.
Non. En plus, j'ai horreur de la modestie. Vous voyez, il y a des très grands avocats. J'ai pas été un très grand avocat et des très grands juristes, membres du Conseil d'État. Ça n'a pas été mon cas. Il y a des militaires professionnels. Moi, j'ai été très heureux de servir pendant à peu près 18 ans à la Légion étrangère, donc la réserve opérationnelle de la Légion étrangère. Mais au fond, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que il m'a toujours semblé que pour écrire des livres, je devais vivre en étant plongé dans mon temps, et le cas échéant dans des univers d'ailleurs qui ne me plaisaient pas nécessairement. Par exemple, il y a eu les années 80, vous savez, avec la folie financière, il m'est arrivé de participer à une OPA, ensuite il y a eu les premières guerres européennes, la Yougoslavie, etc. À ce moment-là, je me suis engagé, je sais pas, j'avais le désir d'aller y voir et d'avoir l'idée que ça rendrait peut-être mes livres plus intéressants.
Et en écrivant un roman qui se passe en 1870, est-ce que vous avez l'impression de vivre ce temps-là, celui de 1870, alors, qui est un temps que vous dites entre deux mondes?
Absolument, parce que il y a des, Alors d'abord, je dois dire que j'ai pris à écrire ce livre comme les suivants, puisqu'il ont, ce livre aura des suites comme les suivants sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, un plaisir que je n'avais jamais pris auparavant. D'abord parce que ça me permet de revisiter des endroits que j'ai aimés. Sedan, parce que j'ai aimé Sedan il y a une trentaine d'années, donc c'est un paysage un peu à la Julien Gracq, vous voyez, c'est un paysage habité avec les souvenirs de trois guerres successives, hein, 70, 14 et 40, avec la maison forte que Gracq décrit dans Le balcon en forêt. Je trouvais que c'était un univers absolument hanté et onirique qui me plaisait énormément. Pour les livres suivants, je me transporte à Salonique en 13, dans la France de la défaite en 40, en Hongrie en mai 89. Et en fait, écrire me permet de revisiter ces endroits, mais de manière non personnelle. C'est-à-dire en disant autre chose, en ne disant pas « je ». Et au fond, ça m'a procuré un immense sentiment de libération. Voilà.
Mais alors, quand vous racontez ça, il faut rappeler que Thomas More traverse les siècles. C'est un drôle de personnage, parce que, sans faire d'allusion à votre habit vert, il est immortel, lui.
Oui, bah, lui il est vraiment, ça, il n'y a absolument aucun doute. Oui, il a un côté, mais au fond, ça n'est pas très important. Je l'ai fait parce que j'aimais beaucoup ce bonhomme, et que, dès lors qu'il s'agissait à la fois que je parle d'endroit ou de temps de l'histoire qui m'intéressait, et que je voulais conserver ce bonhomme que j'aimais beaucoup et que j'avais beaucoup de plaisir à suivre, il fallait bien que je trouve une manière de lui faire traverser le temps. Donc il a en effet un petit côté Joseph Balsamo.
Voilà. Mais pourquoi vous l'aimez tant, ce grand mince blond, la cinquantaine, visage régulier, yeux verts, un vieil ange, écrivez-vous?
Oui, parce que je trouve qu'il y a des personnages qui sont des personnages réconfortants. Et lui, il est réconfortant à la fois parce qu'il correspond, au fond, à cette phrase que Simenon avait mise sur son ex-libris, qui est « comprendre et ne pas juger ». Voilà, il est réconfortant parce qu'il est affronté au mystère du mal et qu'il traite ce mystère du mal avec une humanité, une compassion tout à fait singulière.
Et il faut rappeler que ce personnage de Thomas More, François Sureau, parle de nombreuses langues dans cet épisode. Il parle breton et tahitien, ce qui n'est pas tout à fait inintéressant. Et il va découvrir qu'il y a un assassin juste à ses tournures belges dans sa façon de parler français. Absolument. Donc il est très attaché à la langue et aux langues.
Il est très attaché aux langues. J'ai eu un tout petit peu de mal, d'ailleurs, parce que je m'étais servi des compétences de quelques amis pour écrire les passages en tahitien et en breton, qui sont cités tels quels dans le texte, non traduits ou vaguement. Et ça m'a donné beaucoup d'amusement. Il y a une chose qui est frappante aussi, quand on écrit ces choses-là, c'est le type de, et ça c'est tout à fait nouveau pour moi, c'est le type de relation que ça induit avec les lecteurs. Avant, j'ai écrit des tas de livres, alors il y a des gens qui m'écrivaient en me disant ce que vous faites très bien, bravo, ou bien j'étais très ému en lisant ces passages, ou bien je déteste tel autre truc, vous devriez abandonner ce registre. Et là, c'est la première fois que j'entretiens avec des lecteurs une correspondance fondée sur l'aventure elle-même. Où les gens m'écrivent en me disant « Oui, mais alors je ne suis pas absolument d'accord parce que, franchement, l'indice de la page 44, je n'aurais pas réussi à le trouver. Ou bien, ils sont bien vos crimes, mais voyez, si dans le suivant, vous pouviez faire mourir ma belle-mère et décimer de telle manière,
vraiment
je serais extrêmement content. » Et donc, les gens me donnent des idées pour les aventures futures de Thomas More. Donc, il y a un côté collaboratif dans le personnage du roman policier qui est extrêmement sympathique.
Alors, il y a pas mal de morts, hein, déjà, dans cet épisode. En 150 pages, il y a un officier retrouvé mort sur le bord du fleuve, avec à ses côtés une dent de sanglier, une jeune fille assassinée qui est déguisée en religieuse, et puis un jeune homme que l'on retrouve dans une église. Vous parliez de la page 56, j'aimerais que vous nous lisiez la page 45 de votre roman. C'est un dialogue avec un certain Gribelius.
À vous entendre, dit Gribelius, on croirait que vous parvenez toujours à vos fins. « C'est le cas le plus souvent, » répondit More avec placidité, d'une voix où ne passait aucune vantardise. « Mais alors, quel est votre secret? Vous avez éludé une question de méthode. Si ce n'est pas une question de méthode, comment vous assurez-vous du succès final ?»« J'ai une excellente mémoire. » »« Mais limitée quand même au cas que vous avez connu. Ou alors, vous possédez sur le bout des doigts vos archives criminelles. Sur le papier, ce n'est pas pareil tout de même. »« J'en ai connu beaucoup, vous savez, » murmura More. « Est-il vrai que les figures du crime sont en nombre réduit ?» demanda Seligman. « Que c'est toujours plus ou moins la même chose ? Ce qui doit aider, en effet. » « On le dit souvent, mais je crois qu'on a tort. C'est vrai si on se rapporte au mobile. Les raisons de tuer ne sont pas nombreuses, c'est l'évidence. L'amour, l'intérêt, lié à l'argent ou à la réputation, la vengeance. Mais le crime n'est pas un acte automatique. Tous ceux qui y auraient intérêt ne se transforment pas en assassins. « Je n'y avais pas pensé, » dit Seligman. « C'est l'instant qui fait le crime, l'instant qui transforme un innocent en criminel. Cet instant n'est jamais le même. Et c'est pourquoi chaque crime a sa couleur particulière. Je me souviens des couleurs. » Gribelius paraissait rêver sur ces paroles comme on rêve sur une musique. Seligman alluma l'un des fins cigares noirs qu'il affectionnait. « Ce sont les couleurs du mal, alors, et vous en avez le nuancier ?»« Non, » dit Mort. « Le mal n'a pas de couleur. Il est uniformément gris. » Le crime, c'est du néant, et d'ailleurs après, il couvre le criminel, qu'on le découvre ou pas, de la même poussière grise. Peut-être est-ce là le châtiment.
C'est l'instant qui fait le crime. Est-ce que c'est l'avocat qui parle, François Sureau ?
Bah non, pas vraiment, parce que quand je faisais l'avocat, j'étais plutôt spécialisé dans le droit constitutionnel, dans lequel on a assez rarement l'occasion de commettre des crimes, enfin, sauf peut-être, évidemment, quand on fait des crimes contre la Constitution, quand on fait des coups d'État, etc. Mais ma pratique ne m'a jamais orienté vers le droit criminel. Non, ce qui me frappe, c'est plutôt la lecture des autres romans policiers, de ceux de Simenon par exemple, ou de ceux d'Agatha Christie. C'est cette méditation sur le moment que je trouve fascinant, où un innocent devient coupable.
Ce moment de bascule, en fait.
Ce moment de bascule qui est très bien expliqué par Simenon dans un très beau livre qui s'appelle « Lettre à mon juge », où le coupable s'adresse au juge en disant « Vous savez, avant de commettre le crime, je faisais partie du vaste monde des innocents, j'étais un innocent comme un autre, et puis tout d'un coup, j'ai basculé dans un autre monde avec une culpabilité dont en réalité, on ne sort jamais. » Je trouve ce moment assez fascinant parce que bon, c'est pas un roman policier métaphysique, j'espère qu'on s'amuse bien en le lisant et qu'on tourne une page après l'autre, mais il y a quand même au cœur de cette affaire cette espèce d'idée que la pulsion du mal nous est inconnaissable, que le mal n'a pas de raison. Entre deux personnes qui ont la même raison de tuer quelqu'un pour en hériter, l'un va le faire et l'autre pas. Et donc le déterminant ultime de l'acte nous reste presque à jamais inconnu. Et c'est d'ailleurs ça l'une des caractéristiques de Mort, c'est que de mon détective, c'est qu'au fond il se contente de remarquer l'enchaînement, de découvrir la vérité parce qu'il vaut mieux que la vérité soit découverte, mais il ne va jamais au-delà. Il n'essaye pas de déterminer de manière trop subtile l'origine du mal. En plus, c'est le sens de la dernière phrase que j'ai lue. Il est convaincu, ça pour le coup je le suis aussi, et pas à raison de mon métier, il est convaincu que le mal porte en lui-même son propre châtiment. J'ai toujours été convaincu d'expérience que, au fond, la punition, même la punition judiciaire, est assez souvent, je pourrais choquer beaucoup de gens en disant ça, mais assez souvent superfétatoire. Ça, en réalité, le châtiment est dehors, sauf pour les crimes les plus abominables, naturellement, mais le châtiment est déjà là.
Alors, vous avez une œuvre très fournie, très diverse, François Sureau. Vous n'aviez jamais écrit d'enquête policière pour l'instant. Est-ce que c'est un tournant dans votre vie, une nouvelle vie à estourdir des personnages ?
D'abord, c'est plutôt un retour à l'origine. Il y a T.S. Eliot, que j'aime beaucoup, disait que, passé un certain âge, au fond, un auteur avait le choix entre trois solutions. Se taire. Une solution qui n'est pas ridicule, hein. Je trouve que beaucoup de mes contemporains, et parfois je le trouve également s'agissant de moi-même, pourraient aussi bien se taire, considérer qu'on a rendu sa copie, qu'on a fait son truc, etc. Pourquoi sortir un nouveau livre tous les 3 ans ? Après tout, Stendhal est le plus grand écrivain de son temps avec 4 livres, enfin, je veux dire, ou 5. On n'a pas besoin quand même d'avoir une bibliographie aussi considérable. Donc se taire, ou bien raconter toujours la même chose en approfondissant à chaque fois. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mes livres précédents, Lors du temps, S'en aller, etc. Ou bien essayer de faire quelque chose d'entièrement nouveau. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose d'entièrement nouveau. Sauf que ce n'est pas vraiment nouveau, parce que, ce faisant, je suis remonté aux sources de ce qui avait déterminé en moi l'amour de la littérature, et qui était le roman d'aventure, le roman policier, le roman de dépaysement, tout ce qu'on aime quand on lit Monte Cristo, Alexandre Dumas, Stevenson ou Arsène Lupin, et qui était véritablement ce qui m'a fait aimer la littérature.
Mais il y a dans ce roman-là quelque chose qui fouille aussi.
Oui.
Vous êtes entre les deux options.
Non, mais c'est presque malgré moi. Parce qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut quand on écrit. Et donc, ce que je voulais faire, c'est effectivement un roman d'aventure, un roman entraînant, un roman qui se présente un peu comme sous la forme des feuilletons du 19e siècle. Mmh. Bon, et puis, la nature humaine étant ce qu'elle est, de temps en temps, j'ai été repris par mes vieux démons d'investigation intérieure pour essayer de m'intéresser un peu plus profondément au personnage.
Comment vont se poursuivre les aventures de Thomas More? Parce qu'il y a une note de l'éditeur qui renvoie au volume 8.
Oui,
alors que c'est le premier volume qu'on est en train de lire.
Voilà, je vais bientôt attaquer d'ailleurs le volume 8, mais dans celui que je suis en train de faire maintenant, vous verrez une référence au volume 24. Moi je me fixe des objectifs extrêmement ambitieux. Je compte tomber au champ d'honneur de la littérature, mais ma plume à la main, si vous voulez. Donc le suivant se passe en 13 à Salonique, celui-là va paraître en janvier. Avec d'ailleurs la même structure, c'est-à-dire que vous avez vu que More dans le livre a une sorte de Watson. C'est toujours très intéressant la question du Watson, c'est-à-dire du comparse du détective, qui en général est là, un type un peu éberlué et souvent benêt, et qui est destiné à mettre en valeur le détective. Et moi, mon Watson dans celui-là s'appelle Seligman, et en fait je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que Seligman c'est moi. C'est-à-dire, en réalité, je suis moi-même le Watson de mon propre détective. Et au fil des enquêtes, il y a toujours un Seligman. Il appartient toujours à la même famille, mais évidemment, comme lui ne traverse pas le temps, si je puis dire, c'est toujours quelqu'un d'autre, un petit-neveu, un grand-père, un cousin, etc., etc. Donc le suivant se passe à Salonique en 13, celui d'après se passe à Paris entre Paris et Orléans pendant la débâcle en 40, et puis le suivant se passe en Hongrie en mai 89. Il se trouve que j'habitais la Hongrie au moment où le mur de Berlin est tombé, enfin plutôt le mur séparant, dans la région de Sopron, les miradors et les barbelés qui séparaient la Hongrie de l'Autriche. Et donc j'ai été très très frappé par ce que j'ai vu à cette époque en Hongrie. Et puis le suivant qui doit donc...
Vous avez un programme très très établi alors.
Ah oui, non, mais je le suis avec rigueur.
Mais quand vous dites 24, c'est vraiment 24? Vous ferez au moins 24 tomes au détriment de tout le reste?
Je ne sais pas, peut-être, on verra, peut-être... Peut-être qu'à la fin, Thomas More écrira ses mémoires et il mettra lui-même le point final à mon aventure, me transformant ainsi à mon tour en personnage, ce dont je serai extrêmement content.
Mais vous écrivez vite? Parce que ça va vite.
J'écris pas vite du tout, j'ai un mal.
Votre écriture va très très vite.
Bah, j'espère bien.
Dans votre description des personnages, des enquêtes, des paysages.
Mais c'est, non, j'écris pas vite. J'écris pas vite et puis surtout, je fais... je fais 7 ou 8 versions successives du même manuscrit. Ça aussi, c'est une expérience que je n'avais jamais faite quand même. Quand on écrit un roman policier, on est affronté à un nombre de contraintes qu'on n'a pas dans le roman normal. On ne peut pas se tromper d'un quart d'heure ou d'une demi-heure sur... le temps qu'il fallait pour aller de Sedan à Charleville à cheval en 1870. Sans ça, c'est l'alibi d'un tiers qui saute, la totalité de l'enquête est compromise, un innocent condamné, une tête qui tombe. Donc en écrivant, en fait, on est obligé de se livrer à des vérifications permanentes. Ces vérifications, alors ça c'est un autre élément plaisant, sont de nature à vous rendre fou. Maintenant, je ne peux pas aller dîner le soir dans une pizzeria, regarder quelqu'un sortir le ticket de paiement, si vous voulez, sans me dire de quoi est-ce l'alibi.
Quand allez-vous enquêter? Va-t-il enquêter en 2025 ou 2026?
Oui, absolument.
Oui, c'est prévu.
Il est prévu qu'il enquête en 1972 en Amérique, par exemple, et en 2025.
Merci beaucoup François Sureau, Les Enfants Perdus, premier tome des aventures de Thomas More, édité chez Gallimard. Pascal Paradou, Cécile Labolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.